La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui mardi, nous poursuivons notre série consacrée à l'auteur de Belle du Seigneur, l'écrivain Albert Cohen. Il est né citoyen ottoman à Corfou en 1895, avant d'émigrer 5 années plus tard avec sa famille à Marseille, où il passera son enfance. Mais c'est en Suisse qu'il se sentira véritablement chez lui, à Genève, où il s'est installé d'abord avec sa première femme, laquelle mourra jeune à 29 ans, tout comme une autre de ses compagnes, Yvonne Himer, emportée elle par une crise cardiaque. Les autres drames de la vie de Cohen sont liés au rejet qu'il eut à subir en tant que juif, comme nous l'avons vu hier avec Maxime Decoux dans une émission à réécouter en podcast. Alors, Belle du Seigneur, c'est le grand roman d'Albert Cohen, celui que l'on retient dans l'œuvre car il en constitue l'acmé et qu'il est devenu un classique. Nous en parlerons demain, ce sera avec Alain Schaffner. Enfin, jeudi, c'est des œuvres autobiographiques dont il sera question ici, en particulier du livre de ma mère et de Ô vous, frères humains. Nous serons pour ce faire en compagnie d'Anne-Marie Jaton. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour évoquer le cycle Solal et les Solals d'Albert Cohen qui vient de paraître dans une nouvelle édition chez Quarto Gallimard, nous sommes en compagnie de Philippe Zarre qui a dirigé ce volume. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Je regrette de m'être borné à écrire des romans. Faut-il qu'on soit heureux ou léger ou superficiel pour s'amuser à ces balivernes pas vraies, à se creuser la tête pour savoir qui était le père de l'héroïne et ce qu'elle fit le lendemain, ou si on est peintre, mettre des couleurs sur une toile ou faire de la politique dans 100 ans disparus, ou même faire des bruits agréables, ce qui est divertissement de sauvage ou de canari.
Albert Cohen, au micro de Françoise Estève et Jean Couturier en 1976. Bonjour à vous, Philippe Zarre.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut vraiment croire Albert Cohen quand il dit regretter de s'être borné à écrire des romans, surtout qu'il ne s'est pas borné à écrire des romans? Enfin, on sent quand même là quelque chose que de l'ordre de la coquetterie.
Sans doute un peu de sincérité et beaucoup de coquetterie par ailleurs. Un peu de sincérité parce que Cohen, il y avait toujours en Cohen une sorte d'ecclésiaste qui sommeillait, celui qui pensait vanité des vanités. Et quoi de plus futile en apparence que d'écrire des romans, des histoires pas vraies, comme il le dit lui-même. Mais de la coquetterie aussi, car il était, je crois, très fier de son œuvre. Et cette œuvre-là, il l'a écrite, pourrait-on dire, il l'a portée toute sa vie. Et c'est là qu'il a dit quand même l'essentiel de ce qu'il avait à dire, quoi qu'il ait pu affirmer par ailleurs.
Vous pensez qu'il écrivait d'abord pour lui, ou aussi pour les autres, ou d'abord pour les autres ?
Non, je crois qu'il écrivait d'abord pour les autres. Il avait une énorme ambition d'écrivain depuis les années 20. Jusqu'à la fin, c'est comme écrivain qu'il a voulu exister.
Alors les romans d'Albert Cohen, on les retrouve quasiment tous dans le cycle Solal des Solals que vous avez donc édité pour Gallimard dans la collection Quarto. Il va falloir d'abord revenir un petit peu sur ce titre que vous avez choisi, Solal et les Solals, pardonnez-moi, je me suis trompé d'ailleurs. Solal et les Solals, c'est un titre qui existait au départ pour Albert Cohen, mais qui a été abandonné. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la genèse de ce titre-là ?
Oui, alors si je peux me permettre une toute petite modification de ce que vous avez dit, ce n'est pas quasiment tous les romans, c'est tous les romans.
Car enfin, pas les romans autobiographiques hein, dont on parle,
voilà, d'ailleurs, je dis. Mais c'est vraiment la part fictionnelle qui est entièrement rassemblée ici, parce que, en réalité, Cohen n'a écrit que ce roman. Alors, ce roman ne s'appelait pas Solal et les Solales, mais il a failli s'appeler Solal et les Solales, puisque lorsque Cohen a écrit en 1938 la deuxième partie, la suite de Solal paru en 1930, il l'a fait paraître avec un surtitre qui était Solal et les Solales, deuxième volume, avec en vue un troisième volume qui se serait appelé Belle du Seigneur.
Donc dès le départ, il y a cette idée d'un découpage en trois, et on verra que ça va devenir quatre, mais au départ, il y a cette idée-là.
Alors, si l'on résume les choses, en 1930, il publie Solal comme un roman autonome, mais comme il fait ressusciter son héros à la fin de Solal, on comprend qu'il ne ferme pas la porte à une suite. C'est cette suite qu'il met en œuvre à partir de 1935. Il entreprend donc de rédiger un autre roman qui devait s'appeler Belle du Seigneur et qui devait être le tome 2 ou le second volet d'un diptyque qui se serait appelé Solal et les Solales. Ce surtitre paraît en 1938, mais il disparaît ensuite. Et pourtant, lorsque Albert Cohen publie Belle du Seigneur, au commencement, il demande à Gallimard de le publier avec de nouveau ce surtitre « Solal et les Solales », ce que Gallimard refuse, pour des raisons qu'on peut très bien comprendre.
Parce qu'on n'aime pas vendre un tome 2 en spécifiant que c'est un tome 2, parce que du coup les lecteurs peuvent se dire...
Oui, ça aurait même été le tome 3, à vrai dire. « Solal », tome 1, « Mangeclou », tome 2,
« Mangeclou »,
Belle du Seigneur », tome 3. Et Gallimard dit non, ça n'est pas tout simplement vendable.
Et on n'achète pas un tome 3 si on n'a pas lu les deux premiers.
Et surtout 30 ans après. Un bon éditeur, un éditeur qui se respecte, ne peut quand même pas tenir ça pour une bonne affaire. Exit Solal et les Solales. Mais c'est à son corps défendant que Cohen renonce à ce surtitre, parce qu'il lui aurait donné la possibilité de faire apparaître pour la première fois l'unité de son œuvre.
Donc vous remettez ensemble finalement tout ce cycle-là, et pour vous c'est comme ça qu'il faut le lire pour réellement le comprendre, et Belle du Seigneur tout seul ne suffit pas. Pourtant, c'était le choix qu'avaient fait les éditeurs de la Pléiade, qui avaient extrait Belle du Seigneur. Est-ce que vous pensez que vraiment on ne peut pas comprendre ce livre si on n'a pas lu Mangeclou, Solal, Les Valeureux?
On peut, au sens de la possibilité, lire séparément chacun des quatre volumes de cette tétralogie. Mais on ne prend pleinement la mesure du projet et de la signification que Cohen voulait lui donner que en resituant Belle du Seigneur dans le cadre de cette tétralogie. Et dans cette édition que je présente, je fais même le geste militant, si j'ose dire, de déplacer chronologiquement les Valeureux, qui sont parus en 1969, un an avant Belle du Seigneur, mais qui rapportent une histoire antérieure à Belle du Seigneur.
Un an après Belle du Seigneur.
Voilà, l'histoire des Valeureux est antérieure, mais la parution des Valeureux est ultérieure. Donc je l'ai restituée à sa place originelle, qui est au fond celle d'un tome 3 du volume.
Alors qu'est-ce qu'on comprend mieux en revanche de Belle du Seigneur, puisque c'est vrai que c'est sans doute le roman que les auditeurs connaissent le plus, en ayant lu par exemple Solal?
Alors, d'abord on comprend que Belle du Seigneur est la reprise, au sens non seulement de la répétition, mais de la reformulation, de quelque chose qui est ce que j'appellerais un scénario premier, un scénario princeps en quelque sorte, qui est un scénario érotico-politico-théologique.
Les choses vont ensemble ici,
les trois choses sont absolument solidaires. Ce scénario, il est déjà forgé, conçu dès Solal en 1930. Et qu'est-ce que c'est que ce scénario? Je dirais, pour résumer, le rêve ambitieux et érotique d'un jeune juif exilé, enfant prodige et enfant prodigue d'un ghetto céphalonien, ce rêve ambitieux et érotique pour l'Europe, ce rêve d'Europe.
Pour l'Occident.
Ce rêve d'Occident qui s'incarne dans la femme occidentale et notamment la femme chrétienne, la belle protestante, pour résumé, et aussi la société européenne, la politique européenne.
Rêve qui fait rêver pour quelle raison finalement quelqu'un qui viendrait d'Orient?
qui fait rêver parce que c'est un rêve d'affranchissement, d'émancipation d'un jeune homme issu d'un ghetto judéo-oriental, soumis à une loi assez asphyxiante qui est la loi de la tribu et la loi du père, hein, un père qui est à lui seul le représentant de la Torah, de la loi dans toute sa sévérité. Et il y a ce rêve émancipateur qui va d'ailleurs devenir au fil du roman un rêve messianique, car le jeune Solal n'a pas abdiqué au fond les valeurs et les espérances du prophétisme juif.
Donc c'est un rêve d'émancipation, d'une certaine manière, qu'on peut lire tout au long de ce cycle-là. Alors vous allez nous dire si ce rêve est réalisé par les personnages et comment.
Rêve d'émancipation qui tourne ensuite à une sorte de délire messianique, mais qui échoue. Et quand je parle d'un scénario premier, c'est-à-dire que ce qui est insistant, opiniâtre, c'est non seulement ce rêve, mais son échec. Car le deuxième élément de ce scénario, c'est que cet affranchissement, cette émancipation, se heurte à ce qu'on pourrait appeler le retour du refoulé, c'est-à-dire le retour de ce refoulé judéo-oriental qui constamment vient faire entrave à l'accomplissement, à la réalisation hein, des ambitions érotico-politiques de ce jeune ambitieux.
Mais pourtant, Solal a toutes les femmes européennes à ses pieds, et puis professionnellement, il réussit très bien, puisqu'il va travailler à la SDN, qui va le devenir sous-secrétaire général. Donc, il n'y a pas l'air d'y avoir tellement de retour du refoulé ici. On a l'impression que son rêve d'intégration, je ne sais pas si c'est le mot d'ailleurs qu'il faut employer, mais enfin, son rêve de phagocyter finalement cet Occident qui l'attire, il semble y parvenir quand même, Philippe Zahar.
Il y parvient jusqu'à ce que sa tribu fasse irruption effraction même, hein, dans le ministère où il travaille, où il vient d'obtenir la main de la belle protestante Aude de Mossane, hein, fille elle-même du président du conseil. Et c'est cette intrusion de la tribu qui fait une première fois, puis une seconde fois, échouer le rêve amoureux et politique de Solal. Donc c'est le scénario classique au fond, du parvenu qui redevient paria après le retour de sa tribu. Ce retour à demi consenti en réalité, car on comprend bien que ces créatures dépenaillées, hirsutes, exotiques qui surgissent au beau milieu de l'aventure européenne de Solal, ce sont aussi très largement une figure de sa propre dette et de sa propre culpabilité.
En fin de compte, Solal est un fils du ghetto. Quelqu'un, je crois que c'est Claude Lanzmann, oui, dans un très bel article, un très long article qu'il a publié tout récemment dans le journal féminin Elle, où il dit que Solal est à la fois le symbole du juif assimilé, complètement assimilé, puisqu'il est vainqueur, vainqueur socialement, vainqueur amoureusement, qu'il a tout ce qui caractérise un juif qui n'est plus juif. Eh bien, en même temps, ce symbole du juif assimilé est un juif complètement pur, qui ne se sent que juif, n'est-ce pas ? Comme moi.
La compagnie des auteurs sur France Culture, le « comme moi » est important ici, prononcé par Albert Cohen, parce qu'il pose la question, finalement, est-ce que le parcours que vous venez d'expliquer, Philippe Zahar, au sujet de Solal, vers l'Occident et retour vers l'Orient, c'est aussi le parcours de Albert Cohen, selon vous ?
Dans une large mesure, Cohen a projeter en cela une certaine vision, mais une vision transfigurée de lui-même. Ce qui le montre bien, d'ailleurs, c'est le choix du nom de son personnage, Solal. Car il faut savoir, peu de gens le savent, Solal est un nom qui cache, qui recouvre le nom de Cohen. Donc, le personnage de Solal est en réalité un Cohen, mais une version transfigurée, magnifiée de lui-même.
Donc, il y a de l'autobiographie aussi dans le cycle des Solal.
Il y a des projections d'autobiographie, mais honnêtement, on serait bien mal inspiré de reconnaître dans ce personnage flamboyant de Solal l'homme relativement modeste qu'a été Cohen dans son existence. Mais alors, ce que Cohen dit dans l'extrait que vous venez de diffuser me paraît particulièrement intéressant parce qu'il montre bien toute l'ambiguïté du personnage. Le judaïsme qui fait retour, on ne sait pas tout à fait ce qui fait retour dans ce judaïsme. Est-ce la loi? Est-ce l'exigence éthique, l'idéal éthique? Est-ce les ancêtres? Est-ce une part de soi-même dont on voudrait se débarrasser? Son origine, sa famille, sa tribu. Et il y a dans le rapport de Cohen au judaïsme, je dirais, un double mouvement. Je pensais à une phrase, vous allez me demander le rapport, c'est dans La condition humaine de Malraux, le vieux Gisors parle du marxisme et il dit il y a quelque chose comme, je cite un peu approximativement sans doute, il y a dans le marxisme le sens d'une fatalité et l'exaltation d'une volonté. Chaque fois que la fatalité passe avant la volonté, je me méfie. Mmh. Eh bien, si vous remplacez marxisme par judaïsme, vous retrouvez à peu près le rapport de Cohen au judaïsme. Le sens d'une fatalité, y compris dans sa dimension atavique. Et Cohen, comme beaucoup d'auteurs des années 20 et 30, était fasciné, obsédé par l'atavisme, la question des ancêtres, de l'hérédité. Proust est dans le même cas, d'ailleurs, on l'oublie parfois. Donc d'un côté le sens d'une fatalité, de l'autre l'exaltation d'une volonté, c'est-à-dire la volonté d'être juif et de porter haut le message prophétique du judaïsme. Et comme les deux sont mêlés, eh bien ils se mêlent dans cette représentation du judaïsme, au fond deux tendances. L'une que j'appellerais la tentation apologétique, faire de Solal le roman et le personnage, le lieu d'une exaltation du génie du judaïsme, et en même temps un cauchemar identitaire, représenter le retour obstiné des ancêtres.
Mais vous utilisez l'expression « en même temps » et on peut l'utiliser beaucoup pour Albert Cohen. C'est un homme et un écrivain qui est pris entre la tension justement entre les juifs et puis les gentils, comme vous venez de le dire là, mais aussi entre l'Orient et l'Occident, comme on l'a vu, et aussi entre la loi et la nature, parce qu'il y a tout ce côté pulsionnel, très très fort de Solal. Ça aussi, on le comprend mieux dans Belle du Seigneur quand on a lu Solal avant Philippe Zahr.
Oui, tout à fait. Il n'y a pas de romance, il n'y a pas de désir. Et le moteur de l'intrigue romanesque de Solal et de Belle du Seigneur, c'est le désir de la femme et le désir d'Europe. Ce désir est toujours un désir transgressif par rapport à une loi qui est définie dans Solal par son extrême sévérité, son austérité même. Hein. Le rabbin Gamaliel est l'homme pour qui il n'y a pas de réconciliation possible entre le judaïsme et le monde. Il y a une dimension presque gnostique dans le radicalisme de Gamaliel quand il lui dit de se méfier de la nature, de se méfier de la femme, de se méfier des nations. Donc il y a au départ une antinomie. Et le roman, la dynamique du roman de Cohen, c'est d'essayer de dépasser cette antinomie, de vivre le désir et peut-être d'acclimater la loi à ce désir. Quand on y songe, à vrai dire, cette réconciliation entre la loi et la chair, c'est celle que le christianisme a sans doute rêver.
D'où sa pulsion pour le christianisme, son envie d'Occident aussi.
Il y a, de manière plus ou moins implicite et parfois même explicite, une sorte de christianophilie, d'amour ou de tendance chrétienne chez Cohen.
Et y compris dans les romans d'ailleurs, à travers la voix des personnages.
Par exemple, le personnage le plus bouleversant des Valeureux, c'est Saltiel. Saltiel est un juif très fidèle, mais qui a une tendresse pour le message évangélique. Parce que précisément, il semble desserrer un peu les taux de la loi, de la sévérité de la loi. Donc, il y a bien cette tendance.
Mais pourtant, il est allé s'installer en Suisse, pays qui est plus protestant sans doute que la France, et il n'est pas converti, il n'a jamais pensé à se convertir. Donc, c'est un peu un horizon de l'ordre de la velléité pour Albert Cohen, le christianisme.
Disons que pour lui, alors il faudrait distinguer deux époques, ou même trois époques. Il y a eu, dans les années 20, chez Cohen, le Cohen de parole juive, un Cohen assez hostile à un certain christianisme. Et c'était l'affirmation identitaire d'un juif clairement vétérotestamentaire. Le rapport au christianisme s'adoucit, se tempère, sous l'épreuve du néopaganisme qui gagne en Europe dans les années 20 et 30, avec le fascisme et le nazisme, l'exaltation de la force, le darwinisme social, politique, etc. Et donc là, Cohen prend conscience que, quelle que soit leur différence de sensibilité, judaïsme et christianisme visent peut-être un même idéal humain, un idéal éthique qu'il va bientôt formuler sous la forme de l'idéal d'antinature. Et cela va prendre forme, va cristalliser dans les années 30, avec Manche-Clou, avec la guerre. En 1942, il écrit Combat de l'homme, que je publie aussi dans ce volume en annexe, et dans Belle du Seigneur, qui va reprendre, dans une très large mesure, les enseignements philosophiques et métaphysiques de Combat de l'homme.
La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons du cycle Solal et les Solals d'Albert Cohen qui paraît en ce moment dans la collection Quarto chez Gallimard avec vous Philippe Zarre qui en êtes le maître d'œuvre. Revenons justement un petit peu sur ce cycle en lui-même et cette idée qu'au fond Albert Cohen aurait écrit toujours le même livre et que c'est pour ça du coup qu'on doit le lire dans son entièreté, qu'on doit tout lire finalement ensemble. Est-ce que vous pensez que c'est le même livre ou est-ce qu'il y a quand même des différences entre Solal, Manche-Clou, Belle du Seigneur, Les Valeureux ?
Alors, si l'on doit déterminer une ligne de démarcation, ce serait entre Solal et un triptyque qui serait Manche-Clou, Les Valeureux, Belle du Seigneur, qui ne sont au fond qu'un même livre en trois livraisons, avec quelques nuances, bien sûr. Pourquoi ? Eh bien, l'élément déterminant, ça aura été très nettement le fascisme, l'expérience du nazisme, qui fait que l'ensemble, la trilogie, Manche-Clou, Les Valeureux, Belle du Seigneur, vont intégrer une dimension militante presque, sous l'effet de la poussée du nazisme. Il s'agit d'affirmer plus encore que dans Solal le message moral du prophétisme juif. Dans Solal est encore un livre, je dirais, un peu païen. Il y a des éléments dans Solal d'une sorte de nietzschéisme juif, l'exaltation d'une volonté de puissance, d'une volonté de jouissance. Le personnage de Solal est un personnage souvent cruel, impitoyable, une sorte de Julien Sorel qui aurait oublié tous ses scrupules.
Le rapport à Stendhal, d'ailleurs, est très clair, en l'occurrence, entre Madame de Rênal et le personnage féminin dont Solal est amoureux d'abord et dont le nom m'échappe tout de suite. Il y a vraiment un lien très très net. On imagine que d'ailleurs Cohen l'a
oui,
imaginé comme ça.
C'était une intertextualité absolument consciente. Solal est une sorte de rouge et noir juif. Et Aude de Maussan est une sorte de Mathilde de la Mole, comme Adrienne de Valdonne voilà. Est une sorte de Madame de Rênal. Donc, mais il y a dans Solal quelque chose comme une énergie, une puissance presque dionysiaque, qui, sans disparaître complètement, va très largement s'atténuer dans la suite du cycle, dans lequel on va théoriser, mais d'une manière qui parfois va tourner à la démonstration, au traité, cette fameuse loi d'antinature. Mmh. Et s'il y a une différence entre Solal et l'ensemble du cycle, c'est que le Solal de Belle du Seigneur est un Solal qui théorise, hein, qui fait 30 pages ou 40 pages de satire, de leçons sur la société occidentale, sur la fameuse babouinerie, sur la loi du plus fort, qui a un message, une leçon prophétique à asséner.
Et en cela, c'est un roman qui est relativement statique et qui est un huis clos ou une série de huis clos, alors que Solal est davantage un roman romanesque, entre guillemets, où il va se passer beaucoup plus d'action.
Solal est un roman romanesque totalement décomplexé, en effet, ou roman d'aventure, roman de chevalerie presque, roman d'analyse, qui fait feu de tout bois. Les péripéties s'accumulent. Belle du Seigneur, qui est un roman que j'appelle un roman opulent, avec ses 800 pages, et si on y ajoute les manches-clous, ça fait encore beaucoup plus. Eh bien, Belle du Seigneur est un roman où, du point de vue romanesque, au fond, il ne se passe pas beaucoup plus de choses que dans un vaudeville relativement classique, hein, le mari, la femme, l'amant. Avec ce huis clos qui achève le roman. Donc la dimension romanesque est presque entièrement perdue au profit d'une démonstration qu'on a parfois assimilée pratiquement à un roman à thèse.
Mmh. Mais alors donc il y a évidemment ces personnages qui reviennent et le premier d'entre eux c'est Solal. Il y a évidemment d'autres personnages hein, qu'on voit apparaître. Solal n'est pas d'ailleurs dans tous les romans puisque dans Les Valeureux je crois que il ne figure pas. Bon en même temps c'est pas Balzac non plus. C'est pas ce retour des personnages là parce qu'il n'y a pas de volonté de faire concurrence à l'état civil. Le projet est un peu différent quand même.
Le projet est un peu différent. Il n'écrit qu'un seul roman, mais on pourrait dire qu'il l'écrit à partir de deux régimes imaginaires et stylistiques. C'est-à-dire que le monde valeureux, le monde du ghetto, obéit à des règles poétiques et presque philosophiques qui sont radicalement différentes, qui sont hétérogènes à celles de la part réaliste du roman. C'est-à-dire que les aventures de Solal, d'Adrienne, d'Aude, d'Ariane, tout cela se déroule selon les lois d'un certain réalisme romanesque.
Et qui sont aussi les lois de l'Occident.
Qui sont aussi les lois de l'Occident. Et si l'on accepte la résurrection incroyable de Solal à la fin du premier roman, Cohen ne s'écarte pas beaucoup de ces règles de la vraisemblance. Alors qu'avec la veine valeureuse, Mancheclou et ses comparses.
On est du côté du conte et de la fable.
On est du côté du conte oriental, on est du côté du grotesque, on est du côté de l'invraisemblance. Qui peut croire à l'existence de Mancheclou? Personne. Donc, il est assez rare, me semble-t-il, qu'un même ensemble romanesque obéisse à deux régimes imaginaires aussi hétérogènes.
Donc c'est une expérience, finalement, de confronter ces deux mondes au sein d'un même roman et de voir ce qui va se passer?
Oui, et l'avantage et l'inconvénient des mésaventures éditoriales de Cohen, c'est que, justement, elles nous ont forcé, ces mésaventures, à mieux prendre conscience de cette dualité d'inspiration, puisque Mancheclou existe séparément et que c'est un roman très très massivement placé sous le signe des valeureux. Les valeureux, comme leur nom l'indique, c'est un roman encore plus homogène, qui n'est que grotesque. Alors on y perd, bien sûr, parce que ce qui s'y perd, c'est le mélange que Cohen avait d'abord initialement conçu. Mais en même temps, ça met le doigt, hein, ça nous permet de prendre la mesure de ce double régime imaginaire qui sinon serait peut-être passé plus inaperçu.
Est-ce qu'on peut parler quand même de ressassement pour cet auteur qui va passer toute sa vie autour de ces mêmes personnages? C'est tout de même très étrange, finalement, de tourner comme ça autour à l'intérieur d'un même univers et pendant autant d'années. Est-ce que ça signifie aussi que Albert Cohen finalement n'a pas tant changé que cela au fur et à mesure des années, mis à part évidemment l'histoire qui est passée par là, et vous avez bien expliqué en quoi cela est différent du coup des autres livres du cycle. Mais enfin, c'est bizarre tout de même ce côté un petit peu statique d'Albert Cohen dans son rapport à son œuvre pendant tant de décennies.
Alors, il y a deux réponses possibles à cela. La première est celle qui veut qu'un romancier authentique écrive toujours plus ou moins le même livre. On l'a dit de Proust, on l'a dit de Balzac, on l'a dit d'autres auteurs. Eh bien, Cohen est de cela. Et c'est Hermann Hesse que je cite dans ma préface qui disait qu'un romancier n'avait jamais le choix de son sujet.
Enfin, Proust, il écrit quand même sur moins d'années à la fin.
À vrai dire, le cycle de Cohen commence à être conçu autour de 1927-1928, puisque Solal paraît en 1930, et est achevé. Je parle de la conception, pas de l'écriture, hein. Mais il est achevé autour de 1938, c'est-à-dire que la mort de Solal, elle est déjà là en 1938. Ensuite, le roman va connaître des modifications, des rectifications, des ajouts, etc. Mais globalement, la matrice imaginaire de Cohen, elle tient sur 10 ans.
Allez, on va continuer de parler d'Albert Cohen et du cycle Solal et les Solals qui reparaît donc dans cette nouvelle édition chez Quarto Gallimard sous votre houlette Philippe Zarre. Mais tout de suite, voici En compagnie des revues.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et en compagnie aujourd'hui de la Revue des Deux Mondes avec vous, Valérie Toragnan. Vous en êtes la directrice. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'actrice, j'ai envie de vous demander comme ça, d'Albert Cohen.
Oui, évidemment, évidemment. Ouais, évidemment. Je bois vos paroles depuis tout à l'heure. Et voilà, ça m'a donné évidemment juste envie de me replonger.
Bon,
et
moi, il faudra tout relire. Hein. Donc, ah bah oui, voilà, pas seulement Belle du Seigneur, mais tout ensemble. Ouais. Alors vous consacrez votre une de la Revue des Deux Mondes au président américain Donald Trump et vous posez cette question. Donald Trump est-il si fou que cela? Racontez-nous un petit peu pourquoi.
Et oui, on peut reprocher à Trump sa vulgarité, son outrance, son imprévisibilité, son style, mais son bilan, à quelques jours des élections de mid-term, décisif pour la suite de son mandat, mérite d'être regardé de plus près. Trump est le premier à s'être insurgé haut et fort, par exemple, écrit Renaud Girard, contre une réalité qu'on s'est forcé jusque-là de taire, l'extorsion systématique de technologies par les Chinois, par chantage aux sociétés occidentales ayant créé des joint ventures en Chine. Par ailleurs, son protectionnisme constitue-t-il un virage inédit dans la politique économique libérale de l'Amérique? Pour Tony Korn, la pratique de l'administration Trump s'inscrit très classiquement dans une tradition hamiltonienne. Sitôt nommé secrétaire du Trésor par Washington en 1789, Hamilton s'empressa de mettre en œuvre une politique toute colbertienne, faite de tarifs douaniers élevés, de soutien aux manufactures et de développement de la marine marchande. L'Amérique de Trump le fou est euphorique, remarque Nicolas Lecossin. Le taux de croissance atteint 4,2% au rythme annuel et c'est la première fois en 100 ans qu'il est plus élevé que celui du chômage. Ce dernier est descendu à un niveau jamais vu depuis 50 ans. Attention, modère Annick Stetta, cette popularité repose largement sur un effet de trompe-l'œil. Et certains grands patrons, très critiques, réclament le retour d'une politique authentiquement libérale. Le politologue Yascha Mounk s'inquiète quant à lui du tournant populiste du camp conservateur et du déclin de la démocratie libérale. Si l'Amérique rompait avec les principes de la démocratie libérale, ce serait une tragédie planétaire.
Tout autre chose avec, toujours à la une de la Revue des Deux Mondes, un grand dossier consacré à Charles Dickens. Pourquoi relire Dickens aujourd'hui, Valérie ?
Et bien voilà, dans ce dossier passionnant consacré au grand romancier anglais, Jean-Pierre Nogrette propose de dissiper un malentendu. Parce qu'il a dépeint sans fard les rapports sociaux de son temps, l'avidité commune aux riches et aux pauvres, l'exploitation des enfants abandonnés, la misère de ces quartiers de Londres, Charles Dickens serait un écrivain réaliste. Rien de moins vrai. Sarah Thornton revient sur l'envoûtement, l'hallucination qui hante le mystère d'Edwin Drood. Céline Prey évoque à propos d'un conte de Deville, un texte qui oscille entre adhésion, fascination et horreur face à la puissance furieuse de la masse. Il y a aussi la verve noire de l'auteur des Grandes Espérances, l'autre face de son comique débridé, auquel elle est irrémédiablement liée. Sans parler des drôleries, babouineries, grimaces et autres excentricités du texte que nous fait partager Lucien Dazet.
Voilà, surtout la babouinerie.
La babouinerie, encore, oui.
Dickens, en fait, c'est le mystère et la recherche de la vérité.
Oui, illusionniste, caricaturiste, Dickens fonde effectivement ses recherches sur le mystère et la recherche de la vérité. Son œuvre voisine souvent avec le roman policier. Nous publions dans la Revue des Deux Mondes un inédit de Sir Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, passionné par l'énigme du roman inachevé de Dickens, Edwin Drood, nous propose par une suite de dédictions de percer le mystère. À lire les romans de Dickens, on s'aperçoit finalement que la recherche dépasse largement celle du nom d'un assassin, nous explique Jean-Pierre Nogrette. Elle porte sur un mystère plus général, plus envoûtant, celui de la vie, des relations humaines, dans ce qu'elles ont de plus obscur.
Merci beaucoup Valérie Thoranian. Je renvoie nos auditeurs à la Revue des Deux Mondes, actuellement en librairie. À bientôt. C'est la Compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture, au deuxième jour de notre série consacrée, et ce jusqu'à jeudi, à Albert Cohen. Nous parlons de lui aujourd'hui avec Philippe Zarre, qui vient d'éditer le cycle Solal et les Solals dans la collection Quarto des éditions Gallimard. Et pour analyser à présent la forme de la prose d'Albert Cohen, un détour par l'éditeur Hubert Nissen, qu'il a bien connu.
En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a une unité baroque chez Albert Cohen, où il n'y a pas d'unité du tout. Voilà un homme qui entreprend pour plaire, séduire et accompagner une femme d'écrire un récit, c'est son premier roman, c'est Solal, et qui ne va plus cesser de le faire tout au long de sa vie. Bien entendu, il y aura des interruptions, mais toute sa vie de romancier est une vie de conteur qui va s'efforcer par la voix de faire passer un baroque qui s'inscrira ensuite dans l'écriture. Alors, quand vous constatez la manière dont son œuvre se bâtit et les ressassements dont elle est le sujet, vous vous dites que là, la véritable unité, la partie la moins réductible possible de tout ce qu'il a fait, c'est cet aspect baroque des choses. Ce qui est répétitif, c'est en fait le ressassement des prophètes. C'est une des formes de l'intelligence biblique, si je peux le dire de cette manière.
Qui se traduit par une prolifération des termes, des images.
Exactement. Et d'autre part, il y a tout cet aspect de l'oralité. Quand on étudie le texte de Cohen d'un peu près, on s'aperçoit que ce qui distingue son écriture, ce qui fait qu'elle n'est à nul autre comparable, sinon par moment. Parce qu'il est, à certains moments, il parodie très fort, il a parodié Joyce, il a parodié Dostoïevski, il a parodié Cervantes, il a parodié Proust. C'est Solal qui commence par une phrase quasiment proustienne.
Dans le balancement des phrases, il y a quelque chose de proustien, oui.
Mais tout ça passe par une oralité.
Que retenez-vous, Philippe Zarre, de ce que vient de dire à l'instant en archive Hubert Nissen ?
Je souscris à l'essentiel de ces affirmations. Je souscris à la notion de baroque, qui, comme toutes les notions un peu fourre-tout, a quand même cet avantage de pouvoir rassembler sous une même notion ce sentiment que tout lecteur de Cohen peut avoir, celui d'une profusion hétéroclite de discours, de formes, de registres, qui sont, c'est peut-être là que je compléterai la formule d'Hubert Nissen, ce baroquisme poétique de Cohen est assurément à l'image de l'âme juive déchirée de telle que Cohen la concevait, qui n'est faite que de discordance. Mmh. Et donc, on franchit tout les aspects et toutes les dimensions de l'existence humaine. L'âme est un champ de bataille entre violence et douceur, tendresse et horreur, etc. Et donc le baroque sert aussi stylistiquement à exprimer ce foisonnement de dissonance et de discordance.
Et c'est un foisonnement qui peut parfois être un petit peu étouffant dans le trop-plein d'émotions qu'on reçoit en tant que lecteur, avec ces phrases qui sont des vagues, qui peuvent parfois s'abattre sur vous, alors avec plaisir souvent, et puis aussi parfois avec le sentiment justement de manquer un peu d'air.
On peut, je le conçois, il y a des effets de saturation. Saturation dans ce lal, au sens où la profusion des styles, des registres, etc., peut devenir vertigineuse et donner le tournis, véritablement. Saturation dans Belle du Seigneur, parce que Cohen, on le sait, écrivait presque toujours dans un sens, c'est-à-dire il s'agissait pour lui constamment d'en remettre.
Oui, hein. D'en rajouter.
On le lui a parfois reproché, trop de pages, trop de mots.
Trop de sucre.
Parfois, il y a des lecteurs allergiques à cette profusion, on peut le concevoir. Mais il faut accepter, pour autant qu'on accepte cette règle du jeu, qu'on se laisse porter, alors on va au-devant de délices et de découvertes incroyables. Donc oui, le baroque, je souscris entièrement à ce que Hubert Nissen peut en dire. Alors pour ce qui est de la répétition, du ressassement prophétique, oui, je dirais simplement pour nuancer qu'il y a deux types de répétition chez Cohen. La répétition rhétorique au sens de l'insistance, et de ce sentiment d'urgence qu'il peut y avoir, comme chez les prophètes dont il se réclame, à énoncer un message moral ou politique. Et il y a aussi cette répétition qui est de l'ordre de l'obsessionnel.
Un obsessionnel, Albert Cohen.
C'est un obsessionnel. Il a une idée fixe. Et cette idée, il la déploie, il la creuse, il la malaxe dans tous les sens. C'est un grand obsessionnel. Je parle à propos de Belle du Seigneur, d'un grand roman maniaco-dépressif.
Lui-même a terminé sa vie par une dépression.
Il était une sorte de dépressif chronique, et cela se voit. Et je dis maniaco-dépressif parce que cela rend bien compte de cette alternance, cette bipolarité de la poétique et de la psychologie qui est à l'œuvre, c'est-à-dire ces moments où l'on passe de l'euphorie, de l'adhésion à la vie, du consentement à la vie, jusqu'à l'exubérance, jusqu'à l'outrance, et ces moments où, au contraire, il n'y a plus que la tristesse, le désespoir d'une vie absurde qui s'agite sous l'œil morne du néant, pour reprendre une de ses expressions favorites.
Et la possibilité qu'il soit lui-même maniaco-dépressif a été évoquée aussi parmi les chercheurs ou pas? Ou ça n'est peut-être pas important?
Je crois que nous tournons tous autour de cette idée, sans jamais l'avoir développée, parce que, bien sûr, un critique littéraire n'est pas non plus un psychiatre, il ne s'agit pas de faire un diagnostic, mais ici, la dimension maniaco-dépressive me semble être une des clés pour entrer dans l'univers mental de l'écrivain.
Alors, vous auriez peut-être pu ajouter aussi, finalement, à ce recueil du cycle des Solal chez Quarto, la pièce Ézéchiel, parce que ça fait partie un petit peu du même univers, on n'en a pas encore parlé ici. Est-ce que il en a été question de l'intégrer aussi?
Alors, il n'en a pas été vraiment question parce qu'on s'est concentré sur le projet de la tétralogie romanesque, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Ézéchiel, c'est la genèse de l'univers romanesque de Cohen, puisque Ézéchiel est écrit, la première version d'Ézéchiel est écrite en 1927. Et déjà, presque tout l'univers de Cohen est là, c'est-à-dire une figure de père qui représente la loi et le judaïsme. Une autre figure juive qui s'appelle Jérémie et qui est d'ailleurs un futur personnage des romans d'Albert Cohen et qui est une sorte de pauvre juif errant, un clochard, et un fils, sauf que ce fils est mort. Vous voyez, il est mort au moment où il devait rejoindre son père, retourner voir son père après des années d'absence. Il avait réussi brillamment en Europe et il meurt dans le bateau qui le conduisait chez son père. Ézéchiel, c'est le roman d'un retour qui n'a pas lieu. Et on ne sait pas si c'est l'exil ou si c'est le retour qui est mortel hein, dans l'imaginaire de Cohen. Hein. C'est toute l'ambivalence. Mais presque tout est là. Qu'est-ce qui manque? Eh bien, il manque la cohorte des valeureux, qui n'est ici représentée que par ce pauvre Jérémie. Et il manque, bah, il manque quoi? Il manque la femme. Il n'y a pas de femme dans Ézéchiel. C'est un tête-à-tête entre un clochard juif et un banquier juif. Donc deux figures éminemment archétypales, presque stéréotypées, qui s'affrontent, qui font apparaître à nu un certain nombre d'obsessions de Cohen quant à la judéité, et qui vont lui valoir d'ailleurs des accusations d'antisémitisme qui vont lui faire grand mal dans les années 30.
Alors ça, c'est assez difficile à comprendre. Comment est-ce que on a pu accuser finalement Albert Cohen, sachant son engagement pour le sionisme, sachant ses origines, d'être antisémite, Philippe Zahr?
Ça a été jusqu'à ce qu'un critique ayant vu la pièce Ézéchiel en 1933 dise qu'un auteur Adolf Hitler, sous le pseudonyme d'Albert Cohen, avait créé une pièce intitulée Ézéchiel. Alors, remettons-nous dans le contexte. Nous sommes dans les années 30, à l'époque où le nazisme est en pleine expansion, où le Stürmer et toute la presse antisémite européenne fait circuler des caricatures de juifs odieuses, avares, cupides, laids, etc. Et il faut reconnaître que la pièce d'Albert Cohen représente deux juifs qui paraissent
qui sont
être
des clichés, qui sont des caricatures.
De caricatures.
Mais c'est précisément ça qu'il cherche à dénoncer, vraisemblablement.
Bien entendu, Cohen, comme pour Mangeclou d'ailleurs, hein, eh bien, il prend ces caricatures, il les porte à un point d'outrance tel qu'elles deviennent littéralement délirantes. Il les rapatrie dans le giron de l'humour juif. Et eh bien, à partir de là, il les fait servir à un message apologétique. Sauf que, on sait très bien comment ça marche en littérature. Parfois, eh bien, la sublimation humoristique ou poétique ne fonctionne pas. Selon le contexte culturel, selon le contexte de réception, et on ne voit plus que ces faces grimaçantes d'un juif cupide ou d'un juif pouilleux, et seul reste le choc esthétique et politique.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors Philippe Zahr, on continue de tourner autour de ce livre que vous faites paraître, le cycle Solal et les Solal, en nous demandant finalement, est-ce que les interventions qui ont été faites au fur et à mesure, les pages arrachées de Belle du Seigneur pour en faire d'autres livres autonomes, la question qui se pose à la fin, c'est est-ce que c'est bénéfique pour les différents textes pris les uns à côté des autres? Est-ce que ça a été bénéfique pour Belle du Seigneur, par exemple? On peut penser que oui, étant donné le succès du livre. Est-ce que c'est bénéfique aussi pour Mangeclou, qui a été donc extrait aussi de cette grande masse? Est-ce que l'éditeur a eu raison de demander toutes ces coupes, au fond, Philippe Zahr?
C'est très difficile de répondre à cette question. Cela voudrait dire, par exemple, qu'on se demande si Belle du Seigneur aurait pu paraître en 1938 ou en 1939, tel qu'il était alors à cette époque.
Je n'en suis pas sûr. Pourquoi parce pas que le Bel du Seigneur de 38 et de 39 eût été très différent malgré tout de celui que nous lisons en 1968. Il y avait beaucoup de chapitres supplémentaires et il n'est pas sûr que tous ces chapitres eussent été particulièrement heureux. Je crois que l'œuvre s'est peut-être bonifiée, mais c'est un pari parce que, comme vous le savez, ces manuscrits n'existent plus. Nous n'avons plus ces pages et nous ne pouvons pas véritablement en juger.
Mais qu'est-ce qui vous fait dire que ces pages étaient moins intéressantes alors que ce qu'on a conservé ?
Je le présume. Par exemple, Bel du Seigneur commence par la chevauchée de Solal vers Ariane. Il semble que dans la version initiale, Cohen ait songé à écrire toutes sortes de chapitres intermédiaires qui venaient combler le moment entre la fin de Solal et le début de Bel du Seigneur. Des chapitres sur les errances picaresques de Solal, déchues en Europe, etc. Et sur ses premiers contacts avec Adrien Deume, avec
Ariane,
etc.
Ça retardait beaucoup le début de l'action.
Voilà. Il n'est pas sûr, mais qui sait, hein, je n'aurais pas l'arrogance de l'affirmer péremptoirement. Mais il n'est pas sûr que le Bel du Seigneur 38-39 eût été meilleur. Ce qui, en revanche, me semble incontestable, c'est que la nouveauté de l'œuvre, son audace, son originalité auraient été beaucoup plus flagrantes si Bel du Seigneur était parue avant la Deuxième Guerre mondiale que lorsqu'elle est parue en 1968, où Bel du Seigneur paraissait presque déjà un livre vieille école, un livre à l'ancienne.
Mais c'est peut-être ça qui a fait son succès aussi dans un contexte de livre précisément trop moderne pour certains. Et il y a eu comme une espèce de retour de flamme, une envie du retour au romanesque.
Certainement, Bel du Seigneur aurait peut-être ironiquement contribué à une sorte de réhabilitation de ce romanesque que l'on croyait peut-être hâtivement révolu.
Et alors Les Valeureux, parce que c'est le dernier, il paraît en 69, un an après Bel du Seigneur. Et là, pour le coup, on peut se poser la question, est-ce que c'est pas un peu tout de même une redite de ce qui a été déjà dit dans Manche-Clou ? Est-ce que c'était bien nécessaire ?
Oui, c'est une question que je me pose encore aujourd'hui. Oui, Les Valeureux, après Bel du Seigneur, cela peut susciter une certaine déception. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il m'a semblé encore plus urgent et nécessaire de l'interpeler entre Manche-Clou et Bel du Seigneur pour bien montrer que le dernier mot du romancier Albert Cohen, c'était Bel du Seigneur.
C'est qu'il a terminé. On a le sentiment qu'à la fin de Bel du Seigneur, c'est fini, de toute façon.
À la fin de Bel du Seigneur, c'est fini. D'autant que Les Valeureux, en plus, ne trouvent pas leur place dans la chronologie, pour des raisons qui seraient un peu fastidieux d'expliquer ici. Néanmoins, n'allons pas trop loin. Les Valeureux reste un roman très drôle et ne serait-ce que pour le cours de philosophie de Manche-Clou à l'université improvisée de Céphalonie, eh bien le roman vaut le détour. Un chapitre comme ça vous sauve un roman, même si on n'a pas le même éblouissement qu'avec Bel du Seigneur, ni même qu'avec Manche-Clou.
Alors ça, c'est assez incroyable, le nombre de scènes d'anthologie qu'on trouve chez Albert Cohen. On a l'impression qu'un chapitre sur deux, ça va devenir un chapitre mythique. Est-ce qu'il cherchait cela ?
Je crois en effet qu'il travaillait ses romans un peu comme un orfèvre et qu'il ciselait ses chapitres, littéralement, ses monologues intérieurs d'Ariane, de Mariette, de Solal, etc., ont tous un style propre. Il ne suffit pas de dire que c'est la technique joycienne du monologue intérieur, ce n'est pas vrai. Aude, oui, dans Solal, c'est du Joyce, mais Ariane, Mariette et Solal dans Bel du Seigneur, ce ne sont pas des monologues joyciens. Et de la même manière, la description de la salle des pas perdus, du cocktail Benedetti, la tirade, les grandes tirades amoureuses de Bel du Seigneur, ont été, je crois, pensés clairement comme des morceaux de bravoure, des scènes d'anthologie.
Dicté, mais qui en même temps retravaillait beaucoup.
Alors oui, ne croyons pas que parce que Albert Cohen travaillait oralement, dictait ses textes, ne croyons pas qu'il négligeait la forme. Ses textes étaient repris, corrigés sans cesse. Et il y avait l'alliance de l'oralité et d'un perfectionnisme formel qui est, je crois, palpable à chacune des pages.
En un mot, votre scène préférée, votre moment anthologique préféré, Philippe Zard ?
Peut-être le chapitre 36 de Belle du Seigneur où l'on voit Ariane et Solal danser une valse amoureuse sur fond de la rumination d'Adrien Deum, le pauvre mari cocu qui a mal digéré et qui repense à sa soirée et qui repense à la manière dont il va la rapporter à sa femme. Je crois qu'il y a là une polyphonie qui dit toute la virtuosité de l'écrivain.
Merci Philippe Bizarre. On a donc beaucoup évoqué le quarto qui sort avec le cycle de Solal et les Solals. On signale également votre ouvrage paru cette année également de Shylock à Sinoc et c'est sur les judaïsmes apocryphes. C'est chez Classique Garnier. Cette émission n'aurait pas pu avoir lieu sans Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Laurence Genepin, Laurence Malonda, Stéphanie Vélin et Jacques Hubert. Demain, nous continuons à fouiller ce cycle de Solal, mais cette fois en parlant de Belle du Seigneur. Ce sera avec Alain Schaffner et puis ceux qui le souhaitent peuvent écouter toute la semaine dans les nuits de France Culture les rediffusions d'émissions sur Albert Cohen qui date de 1976 par Françoise Esteb et Jean Couturier. Tout de suite, c'est Jacques Bonafé.
Bonjour. Un poète n'a pas plus d'importance qu'une mouche sur la vitre. C'est Paul Kenec avec qui nous passons la semaine qui le dit dans « Des proses qui manquent d'élévation ». Un poète n'a pas plus d'importance qu'une mouche sur la vitre. Celle-ci, je la regarde en me demandant par quel moyen ses pattes adhèrent au verre, et j'imagine que Dieu, qui bien sûr n'a rien de mieux à faire, me regarde la regardant et s'amuse de me voir couvrir la page de mes pattes de mouche. Pattes de mouche contre la dépression, voici le monde, voici l'histoire, l'effort humain, la présomption d'innocence, voici les chefs abandonnés sur les étagères de la nuit. Personnages. Il y a les personnages de romans, on connaît moins les personnages de poésie. Installés au coin du feu, ils battent la mesure en écoutant les Kinderzenen. Quand se lèvent les appels au meurtre, ils sautent sur leurs deux pieds et répondent « présent ». Il faut de la force d'âme pour repousser la tentation. Un vent furieux souffle sur les langues d'État. Elles tournent comme des roues dentées, rouées comme les vieux séducteurs. C'est pourquoi, à la seule pensée de devenir personnage de poésie, je prends mes pinceaux et je peins des natures mortes. C'est qu'on finirait par se méfier des femmes au sein nu guidant le peuple. Paul Kenec, l'homme des côtes bretonnes et sa 100 ans, sent ses tristesses à hurlevent. Paul Kenec se gausse parfois des gentilles alouettes. Je retrouve, à l'approche d'avril, un vieux refus qui me fait préférer le mauvais temps, parce que le mauvais temps met en valeur la vanité du poème. Je l'entoure de tout ce qui est bête à pleurer, et je ne pleure pas. Là-haut, plus loin que le cimetière, plus loin que les dernières maisons, les alouettes montent au ciel et se laissent tomber comme des pierres. Tant d'efforts pour s'élever en chantant, et puis la chute. Et voilà qu'elle recommence. L'homme n'est pas le seul animal bizarre au monde, et il faudrait, par-dessus le marché, imaginer l'alouette heureuse. Les immortels. Les immortels sont des mortels qui vaquent à leurs affaires. Hier, j'ai rencontré un immortel au bord de l'étang. Nous avons parlé de tout, sauf de poésie. « Cesser d'écrire, dit-il, est facile, plus facile que de s'arrêter de fumer. Nous longions la berge à pas compter comme deux hérons. Quand il m'a demandé comment je vais, j'ai compris qu'il voulait sincèrement savoir comment je vais, et j'ai préféré répondre à côté, de crainte d'être amené à parler de vous. Personne ne vous connaît plus aujourd'hui. Je ne pouvais pas lui dire qu'après tant d'années, toutes les fois que je pense à vous, mon dedans se défait, des paroles imprononçables. » À la croisée des chemins, nous nous sommes séparés, chacun vers son île déserte. Réalisme et réel, juste un morceau. Le réalisme est fait pour les chiens. En effet, leur vision en tunnel s'élargit par la truffe, toujours portée en avant, et toute l'urine, tous les excréments se changent en parfum d'Arabie. Preuve, s'il en était besoin, que le réel est soumis au nez, aux yeux et à la bouche, aux trois doigts qui tiennent la plume et les deux autres vivent repliés sous la paume. Paul Kenec.
Merci Jacques Bonafé pour ces lectures donc de textes de Paul Kenec.